Au gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.
C'est un état de fait. L'eau douce manque dans le monde, plus exactement l'eau potable. On peut dire que les pays qui sont avancés sont moins concernés que ceux qui sont dits pauvres ou plus en recul par la pénurie d'eau douce. Il n'empêche, il y a des contrées méditerranéennes qui connaissent d'importants déficits hydriques. Elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins en eau douce. Tout le monde ne le sait pas, mais le dessalement de l'eau est une technique très répandue. C'est souvent une solution incontournable, tout autant que le recyclage des eaux usées et souterraines. En 2008, le bassin méditerranéen représentait un quart du dessalement mondial. Vous l'aurez compris, nous parlons de désalinisation dans cet épisode de l'émission La Grande Bleue. La désalinisation, que l'on nomme aussi dessalage ou dessalement, est le processus qui permet d'obtenir de l'eau douce potable à partir de l'eau salée ou saumâtre. C'est plus rare, mais elle permet aussi de faire de l'irrigation. La méthode de dessalement la plus courante est celle qui consiste à faire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le sel que l'on retire de l'eau, mais l'inverse. L'eau de mer contient 35 g de sel par litre. Le taux de sodium peut dépasser les 40 g par litre. C'est le cas dans le golfe Persique. Produire de l'eau douce à partir de l'eau des lacs et des nappes souterraines est moins compliqué et moins onéreux que depuis l'eau des océans. Cette technique est surtout employée dans les régions où il y a peu de surface maritime. Ce n'est pas l'eau qui manque sur la planète. Les océans sont des réservoirs rêvés. L'eau est présente sur les trois quarts de la Terre. Si l'on pouvait transformer toute cette eau salée en eau douce, on viendrait à bout de toutes les pénuries. L'eau est en quantité, mais elle est essentiellement salée, comprenez, pas directement exploitable pour les besoins du quotidien. L'ironie du sort, c'est qu'une partie des pays qui souffrent de déficit hydrique sont situés à proximité des océans. Pour certains, ils disposent de littoraux conséquents qui pourraient leur permettre de pallier à leur manque d'eau douce. C'est dans les pays arides que le dessalement est le plus fréquent. C'est un enjeu important pour ces régions. Il est vital et économique. Sans eau douce, les gens et les cultures meurent. Or, les systèmes de désalinisation sont encore coûteux et peu rentables, sauf à installer des gros dispositifs qui baissent le prix de production du mètre cube d'eau salée convertie en eau douce sous les 0,50 $. Il implique de gros investissements que seuls des pays comme ceux du Golfe peuvent se permettre. Si l'on exite les coûts de production et de construction, les techniques de désalinisation sont au point aujourd'hui. On peut même avancer qu'elles pourraient permettre de répondre à tous les manques d'eau potable de la planète s'il ne subsistait pas l'obstacle du financement des installations. Car une fois en route, et pour traiter de gros volumes, les unités de dessalement produisent, dans beaucoup de cas, de l'eau douce à moins cher que les stations d'épuration. Les coûts ont été divisés par 10 au cours des 15 dernières années. Elles connaissent en plus moins de défaillances techniques que ces dernières. La désalinisation est moins intéressante pour les petites unités locales. Elle est même très chère. Elle convertit de l'eau salée en eau douce pour 3 fois plus cher que de l'eau de collecte en eau douce. Les procédés de dessalement sont fiables, ce qui n'est pas toujours le cas des opérations de traitement des eaux usées. Il n'est pas rare que des sites touristiques fassent le choix de la désalinisation plutôt que celui du traitement des eaux de collecte pour le rapport en eau douce. On en trouve en Bretagne et en Corse, pour ne citer que la France. Le dessalement est une activité qui est en croissance depuis un moment. Des chiffres annoncent plus 10% des capacités de désalinisation chaque année. Des observations rapportent qu'en 2009, 0,4% de la consommation quotidienne d'eau douce dans le monde venait du dessalement, ce qui portait la production à environ 50 millions de mètres cubes d'eau désalinisée pour cette année. En réalité, le dessalement ne date pas d'hier. Il a débuté de manière industrielle dans les années 1950. Précédemment, les installations étaient petites et artisanales. Ce n'est qu'après, vers les années 1970, que le dessalement tel qu'on le connaît aujourd'hui a bondi, jusqu'à atteindre une production de 47 millions de mètres cubes en 2007, soit 8% de la production totale d'eau potable de l'époque. Les techniques ont sérieusement évolué. Il y en a plein. Le choix de l'une ou l'autre méthode de désalinisation se caractérise par les rendements et les taux résiduels de sel. En clair, parce que cela produit et en résulte une eau plus ou moins douce. Jadis, on faisait chauffer de l'eau à haute température pour en extraire le sel. C'est le principe de la distillation. C'est le plus vieux procédé du monde. Il est né pendant l'Antiquité. Les marins grecs l'utilisaient avant Jésus-Christ pour dessaler de l'eau depuis leurs bateaux. Il s'est imposé avec le dessalement industriel. La technique repose sur la mise en pression et en température de l'eau de mer. On la pousse ensuite dans une enceinte que l'on nomme étage. Il y a différentes manières de chauffer l'eau. On fait parfois appel à des fours solaires. Il ressort de cette mise en température et en pression de la vapeur que l'on fait passer dans des étages successifs et dans lesquels on diminue la pression. À chaque passage, la vapeur perd de sa salinité. Selon le type de distillation, l'eau douce est plus ou moins pure. L'inconvénient majeur de cette technique, c'est qu'elle est gourmande en consommation d'énergie. Il faut faire chauffer l'eau, et même la faire chauffer plusieurs fois. Il n'y a guère que les pays du Golfe qui peuvent y recourir sans que cela leur nuise. Pour les plus petites installations, on a recours au procédé dit d'électrolyse. Il s'agit de purifier l'eau par application d'un courant électrique. Le système est intéressant, à condition que l'eau de mer ne soit pas trop concentrée en sel. On a davantage recours aujourd'hui à l'osmose inverse, qui est moins énergivore que les procédés d'évaporation. C'est une technique membranaire. Elle repose sur une ultrafiltration sous pression à travers des membranes de plus en plus fines. Les pores des dernières sont si petites que les sels sont retenus. L'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer est en plein essor. Cette méthode est créditée d'un bon rapport entre la production d'eau douce et la consommation d'énergie. Elle est fiable et éprouvée. Elle fait partie des techniques de désalinisation les plus employées. Avec la même technologie, des unités mobiles ont été développées. Elles peuvent, pour certaines d'entre elles, dessaler de l'eau de mer, mais également rendre potable de l'eau de rivière bien plus rapidement que les usines classiques en s'appuyant sur la désalinisation par microbes, les mêmes que ceux qui sont produits par des haricots fermentés. Cette méthode d'osmose inverse utilise le soleil pour fonctionner. Elle peut produire de l'eau potable à plusieurs milliers de personnes par jour. Grâce à toutes ces évolutions, on a divisé par 6 les besoins en énergie pour produire 1 mètre cube d'eau dessalée. Il en fallait 12 mètres cubes il y a 40 ans. Il n'en faut que 2 à présent. C'est bien l'énergie qui fait grimper la note du dessalement. Plus il en faut, plus la conversion d'eau douce en eau salée revient chère. Les plus optimistes prédisent qu'après la baisse vertigineuse du coût du dessalement au cours de ces 15 dernières années, on pourrait encore l'infléchir si l'on diminuait les besoins en énergie. Ce qui permettrait des installations dans des pays pauvres en combustible. Les pays du Golfe, comme le Qatar, font généralement le choix de la désalinisation par évaporation parce qu'ils ont de l'énergie fossile. Ce sont des gros producteurs d'eau dessalée. L'Arabie Saoudite représente à elle seule 20% de la désalinisation mondiale annuelle. Le pays compte une trentaine d'usines de forte capacité, mais on trouve des grosses unités de production partout dans le monde. Dans les îles Canaries, l'eau douce provient uniquement du dessalement. Les installations sont énormes. Il en est de même en Israël. Dans cette région de Cisjordanie, une usine produit jusqu'à 320 000 mètres cubes d'eau dessalée par jour pour 1 million de personnes. La plus grosse usine de désalinisation d'Europe se situe en Espagne. Elle se trouve à Pradel-Lobrega, non loin de Barcelone. Elle traite 60 millions de mètres cubes par an. Elle alimente en eau potable près de 5 millions de personnes. L'Espagne mise sur le dessalement, notamment pour compenser ses pénuries dans ces zones touchées par le stress hydrique. On ne trouve à présent essentiellement que des grosses installations de désalinisation. On en compte quelques-unes en France, à Belle-Île-en-Mer, l'île de Sein, au Cap Corse, ce ne sont pas moins de 16 000 centrales qui produisent de l'eau salée à l'échelle mondiale. Elles sont d'une manière générale rentables et bien équipées. L'eau qui est produite par la désalinisation sert surtout à la consommation humaine, c'est-à-dire aux besoins domestiques. Quelques expériences sont tentées pour l'employer pour l'agriculture vivrière. Ce n'est pas financièrement intéressant, le prix de l'eau utilisée excède de loin la valeur de la production agricole. Si l'on prend l'exemple du blé, il faut 500 mètres cubes d'eau pour lever une tonne de blé qui rapporte 100 euros. Alors que le coût de l'eau utilisée ici est de 250 dollars. Autant dire que ce n'est pas rentable. La dépense de l'eau dépasse de presque trois fois celle de la recette du blé. Il n'y a que les cultures vivrières, qui sont à forte valeur ajoutée, qui peuvent supporter le coût d'une irrigation par désalinisation. Dans l'idée de faire baisser le prix du dessalement, des expériences de désaliniser de la glace de mer sont menées, en Chine notamment. La glace est moins salée que l'eau. Elle est salée entre 0,4 et 0,8%, quand la mer l'est, elle, entre 2,8 et 3%. Cela signifie qu'il y a besoin de moins d'énergie pour désaliniser de la glace que de l'eau de mer. La désalinisation de l'eau des lacs et des nappes souterraines est un autre moyen de dessaler à moins cher et en polluant moins. La production d'eau douce est souvent ici combinée à la production d'énergie. On récupère les vapeurs pour produire de la chaleur collective, voire de l'électricité. Il ne faut pas perdre de vue que si le dessalement permet de produire de l'eau douce là où elle manque ou elle n'existe pas, elle a son revers. Et il n'est pas des moindres. Les défenseurs de l'environnement s'en inquiètent. La désalinisation produit de la saumure dont on ne sait que faire. Cette eau, salée de plus 3 à 6 grammes et plus chaude de 3 à 4 degrés par litre que l'eau de mer naturelle, peut difficilement être rejetée comme telle. Des précautions s'imposent pour ne pas détruire la flore et la faune. Il existe des dispositifs de traitement de cette saumure. Leur but est de la ramener le plus proche possible de la salinité naturelle de l'eau de mer à plus 1 gramme et 1 degré d'écart de l'eau de mer au maximum. Il arrive que la saumure soit rejetée sans traitement dans les océans. Dans ce cas, l'émissaire, c'est-à-dire le point de rejet, doit être placé là où il y a du courant et de la houle. Dans les terres comme dans les écosystèmes, la saumure doit être traitée avant d'être rejetée, au risque de perturber l'environnement. Il existe quelques pistes de valorisation de la saumure. On l'utilise en thalassothérapie et dans l'alimentation. Il reste à creuser dans ce domaine. La saumure est pour l'heure plus un fardeau qu'un cadeau. Certains fonds marins sont devenus déserts à cause de ces rejets. Il est évident que nous pouvons nous réjouir que tous puissions avoir accès à l'eau douce. Cela ne doit pas nous faire oublier les contreparties inhérentes à tous ces traitements. Elle a considérablement progressé ces dernières années, mais la désalinisation est consommatrice de produits chimiques, notamment pour nettoyer les membranes, mais aussi génératrice de résidus de corrosion. Les installations laissent échapper du cuivre dans la nature. Les captages d'eau de mer modifient les flux maritimes. Cela n'est pas sans conséquence sur la flore et la faune. La désalinisation est énergivore. Elle augmente considérablement l'empreinte carbone si le traitement fait appel aux combustibles fossiles. Des recherches sont en cours pour joindre l'utile à l'environnemental. Elle pourrait aboutir à utiliser plus massivement les vapeurs et l'eau chaude produites par le dessalement plutôt que de les rejeter en mer. C'est la fin de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Bleue.
Au gré des océans et des côtes, La Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.